Chapitre 6. Ce qui s'était passé entre le duc d'Anjou et le grand veneur, le conseil du roi, monsieur de Guise, au Louvre. Il est temps d'expliquer ce changement subit qui s'était opéré dans les façons du duc d'Anjou à l'égard de Bussy. Le duc, lorsqu'il reçut monsieur de Montsoreau après les exhortations de son gentilhomme, était monté sur le ton le plus favorable au projet de ce dernier. Sa bile, facile à hériter, débordait d'un cœur ulcéré par les deux passions dominantes dans ce cœur. L'amour-propre du duc avait reçu sa blessure. La peur d'un éclat dont le menaçait Bussy au nom de monsieur de Méridor fouettait plus douloureusement encore la colère de François. En effet, deux sentiments de cette nature produisent en se combinant d'épouvantables explosions, quand le cœur qui les renferme, pareil à ces bombes saturées de poudre, est assez solidement construit, assez hermétiquement clos pour que la compression double l'éclat. Monsieur d'Alençon reçut donc le grand veneur avec un de ces visages sévères qui faisaient trembler à la cour les plus intrépides, car on savait les ressources de François en matière de vengeance. « Votre Altesse m'a mandé, dit Montsoreau, fort calme et avec un regard aux tapisseries, car il devinait, cet homme habitué à manier l'âme du prince, tout le feu qui couvait sous ses froideurs apparentes, et l'on eût dit, pour transporter la figure de l'être vivant aux objets inanimés, qu'il demandait compte à l'appartement des projets du maître. « Ne craignez rien, monsieur, dit le duc qui avait compris. Il n'y a personne derrière cette enture. Nous pourrons causer librement et surtout franchement. » Montsoreau s'inclina. « Car vous êtes un bon serviteur, monsieur le grand veneur de France, et vous avez de l'attachement pour ma personne. »« Je le crois, monseigneur. » »« Moi, j'en suis sûr, monsieur, c'est vous qui, en maintes occasions, m'avez instruit des complots ourdis contre moi, vous qui avez aidé mes entreprises, oubliant souvent vos intérêts, exposant votre vie. »« Altesse, je le sais. » Dernièrement encore, il faut que je vous le rappelle, car en vérité, vous avez tant de délicatesse que jamais chez vous aucune allusion, même indirecte, ne remet en évidence les services rendus. Dernièrement, pour cette malheureuse aventure, quelle aventure, monseigneur ? Mais cet enlèvement de mademoiselle de Méridor, pauvre jeune fille. Hélas, murmura Montsoreau, de façon que la réponse ne fût pas sérieusement applicable au sens des paroles de François. Vous la plaignez, n'est-ce pas ? Dit ce dernier en l'appelant sur un terrain sûr. Ne la plaindriez-vous pas, vous, Altesse ? Moi, oh, vous savez si j'ai regretté ce funeste caprice. Et tenez, il a fallu toute l'amitié que j'ai pour vous, toute l'habitude que j'ai de vos bons services, pour me faire oublier que sans vous, je n'eusse pas enlevé la jeune fille. Montsoreau sentit le coup. Voyons, se dit-il, serait-ce simplement des remords ? Monseigneur, répliqua-t-il, votre bonté naturelle vous conduit à exagérer. Vous n'avez pas plus causé la mort de cette jeune fille que moi-même. Comment cela ? Certes, vous n'aviez pas l'intention de pousser la violence jusqu'à la mort de mademoiselle de Méridor. Oh non ! Alors l'intention vous absout, monseigneur. C'est un malheur comme le hasard en cause tous les jours. Et d'ailleurs, ajouta le duc en plongeant son regard dans le cœur de Montsoreau, la mort a tout enveloppé dans son éternel silence. » Il y eut assez de vibrations dans la voix du prince pour que Montsoreau leva les yeux aussitôt et se dit « Ce ne sont pas des remords. « Monseigneur, reprit-il, voulez-vous que je parle franc à votre Altesse ?»« Pourquoi hésiteriez-vous ? » Dit aussitôt le prince avec un étonnement mêlé de hauteur. « En effet, dit Montsoreau, je ne sais pas pourquoi j'hésiterais. Qu'est-ce à dire ?» Oh, monseigneur, je veux dire qu'avec un prince aussi éminent par son intelligence et sa noblesse de cœur, la franchise doit entrer désormais comme élément principal dans cette conversation. Désormais, que signifie ? C'est qu'au début, votre Altesse n'a pas jugé à propos d'user avec moi de cette franchise. Vraiment ! Riposta le duc avec un éclat de rire qui décelait une furieuse colère. « Écoutez-moi, monseigneur, dit humblement Montsoreau, je sais ce que votre Altesse voulait me dire. Parlez donc alors. Votre Altesse voulait me faire entendre que peut-être Mademoiselle de Méridor n'était pas morte et qu'elle dispensait de remords ceux qui se croyaient ses meurtriers. Oh, quel temps vous avez mis, monsieur, à me faire cette réflexion consolante. Vous êtes un fidèle serviteur, sur ma parole. Vous m'avez vu sombre, affligé. Vous m'avez ouï parler des rêves funèbres que je faisais depuis la mort de cette femme, moi, dont la sensibilité n'est pas banale. Dieu merci, et vous m'avez laissé vivre ainsi, lorsque, avec ce seul doute, vous pouviez m'épargner tant de souffrances. Comment faut-il que j'appelle cette conduite, monsieur? Le duc prononça ces paroles avec tout l'éclat d'un courroux prêt à déborder. Monseigneur, répondit Montsoreau, on dirait que votre Altesse dirige contre moi une accusation. Traître! S'écria tout à coup le duc en faisant un pas vers le grand veneur. Je la dirige et je l'appuie. Tu m'as trompé. Tu m'as pris cette femme que j'aimais. Montsoreau pâlit affreusement, mais ne perdit pas son attitude calme et presque fière. C'est vrai, dit-il. Ah, c'est vrai, l'impudent, le fourbe! Veuillez parler plus bas, monseigneur, dit Montsoreau, toujours aussi calme. Votre Altesse oublie qu'elle parle à un gentilhomme, à un bon serviteur. À un bon serviteur du roi, continua Montsoreau, aussi impassible qu'avant cette terrible menace. Le duc s'arrêta sur ce seul mot. Que voulez-vous dire? Murmura-t-il. Je veux dire, reprit avec douceur et obséquiosité Montsoreau, que si Monseigneur voulait bien m'entendre, il comprendrait que j'ai pu prendre cette femme, puisque Son Altesse voulait elle-même la prendre. Le duc ne trouva rien à répondre, stupéfait de tant d'audace. Voici mon excuse, dit humblement le grand veneur. J'aimais ardemment Mademoiselle de Méridor. Moi aussi, répondit François, avec une inexprimable dignité. C'est vrai, monseigneur, vous êtes mon maître, mais Mademoiselle de Méridor ne vous aimait pas. Et elle t'aimait, toi? Peut-être, murmura Montsoreau. Tu mens, tu mens, tu l'as violentée comme je la violentais. Seulement, moi, le maître, j'ai échoué, toi, le valet, tu as réussi. C'est que je n'ai que la puissance, tandis que tu avais la trahison. Monseigneur, je l'aimais. Que m'importe à moi? Monseigneur, des menaces, serpent? Monseigneur, prenez garde, dit Montsoreau, en baissant la tête comme le tigre qui médite son élan. Je l'aimais, vous dis-je, et je ne suis pas un de vos valets, comme vous disiez tout à l'heure. Ma femme est à moi, comme ma terre. Nul ne peut me la prendre, pas même le roi. Or, j'ai voulu avoir cette femme, et je l'ai prise. Vraiment, dit François, en s'élançant vers le timbre d'argent placé sur la table. Tu l'as prise, eh bien, tu me la rendras. Vous vous trompez, monseigneur, s'écria Montsoreau en se précipitant vers la table pour empêcher le prince d'appeler. Arrêtez cette mauvaise pensée qui vient de me nuire, car si vous appeliez une fois, si vous me faisiez une injure publique, tu rendras cette femme, te dis-je. La rendre? Comment? Elle est ma femme, et je l'ai épousée devant Dieu. Montsoreau comptait sur l'effet de cette parole, mais le prince ne quitta point son attitude irritée. Si elle est ta femme devant Dieu, dit-il, tu la rendras aux hommes. Il sait donc tout, murmura Montsoreau. Oui, je sais tout. Ce mariage, tu le rompras, je le romprai, fusses-tu 100 fois engagé devant tous les dieux qui ont réglé cela dans le ciel. Ah, monseigneur, vous blasphémez, dit Montsoreau. Demain, Mademoiselle de Méridor sera rendue à son père. Demain, tu partiras pour l'exil que je vais t'imposer. Dans 1 heure, tu auras vendu ta charge de grand veneur. Voilà mes conditions. Sinon, prends garde, vassal, je te briserai comme je brise ce verre. Et le prince, saisissant une coupe de cristal émaillé, présent du duc d'Autriche, la lança comme un furieux sur Montsoreau, qui fut enveloppé de ses débris. Je ne rendrai pas la femme, je ne quitterai pas ma charge, et je demeurerai en France, reprit Montsoreau en courant à François, stupéfait. Pourquoi cela, maudit? Parce que je demanderai ma grâce au roi de France, au roi élu à l'abbaye de Sainte-Geneviève, et que ce nouveau souverain, si bon, si noble, si heureux de la faveur divine, toute récente encore, ne refusera pas d'écouter le premier suppliant qui lui présentera une requête. Montsoreau avait accentué progressivement ces mots terribles. Le feu de ses yeux passait peu à peu dans sa parole qui devenait éclatante. François pâlit à son tour, fit un pas en arrière, alla pousser la lourde tapisserie de la porte d'entrée, Puis, saisissant Montsoreau par la main, il lui dit, en scandant chaque mot, comme s'il eût été à bout de ses forces, « c'est bien, comte, cette requête, présentez-la moi plus bas, je vous écoute. » « Je parlerai humblement, comme il convient, au très humble serviteur de votre Altesse. » François fit lentement le tour de la vaste chambre, et quand il fut à portée de regarder derrière les tapisseries, il y regarda chaque fois. Il semblait ne pouvoir croire que les paroles de Montsoreau n'eussent pas été entendues. « Vous disiez, demanda-t-il, je disais, monseigneur, qu'un fatal amour a tout fait. L'amour, noble seigneur, est la plus impérieuse des passions. » Pour me faire oublier que votre Altesse avait jeté les yeux sur Diane, il fallait que je ne fusse plus maître de moi. Je vous le disais, comte, c'est une trahison. Ne m'accablez pas, monseigneur, voilà quelle est la pensée qui me vint. Je vous voyais riche, jeune, heureux, je vous voyais le premier prince du monde chrétien. Le duc fit un mouvement. Car vous l'êtes, murmura Montsoreau à l'oreille du duc. Entre ce rang suprême et vous, il n'y a plus qu'une ombre, facile à dissiper. Je croyais toute la splendeur de votre avenir en comparant cette immense fortune aux peu de choses que j'ambitionnais, ébloui de votre rayonnement futur, qui m'empêchait presque de voir la pauvre petite fleur que je désirais, moi, chétif, près de vous, mon maître. Je me suis dit, laissons le prince à ses rêves brillants, à ses projets splendides. Là est son but. Moi, je cherche le mien dans l'ombre. À peine s'apercevra-t-il de ma retraite, à peine sentira-t-il glisser la chétive perle que je dérobe à son bandeau royal. Comte, comte, dit le duc enivré malgré lui par la magie de cette peinture, vous me pardonnez, n'est-ce pas, monseigneur? À ce moment, le duc leva les yeux. Il vit au mur, tapissé de cuir doré, le portrait de Bussy, qu'il aimait à regarder parfois comme il avait jadis aimé à regarder le portrait de Lamolle. Ce portrait avait l'œil si fier, la mine si haute, il tenait son bras si superbement arrondi sur la hanche, que le duc se figura voir Bussy lui-même avec son œil de feu, Bussy qui sortait de la muraille pour l'exciter à prendre courage. « Non, dit-il, je ne puis vous pardonner. Ce n'est pas pour moi que je tiens rigueur, Dieu m'en est témoin. C'est parce qu'un père est en deuil, un père indignement abusé réclame sa fille. » C'est parce qu'une femme, forcée à vous épouser, crie vengeance contre vous. C'est parce que, en un mot, le premier devoir d'un prince est la justice. Monseigneur, ah, c'est, vous dis-je, le premier devoir d'un prince, et je ferai justice. Si la justice, dit Montsoreau, est le premier devoir d'un prince, la reconnaissance est le premier devoir d'un roi. Que dites-vous? Je dis que jamais un roi ne doit oublier celui auquel il doit sa couronne. « Or, monseigneur, eh bien, vous me devez la couronne, sire. »« Montsoreau, s'écria le duc avec une terreur plus grande encore qu'aux premières attaques du grand veneur, « Montsoreau, reprit-il d'une voix basse et tremblante, « êtes-vous donc alors un traître envers le roi, comme vous êtes un traître envers le prince ?»« Je m'attache à qui me soutient, sire, continua Montsoreau d'une voix de plus en plus élevée. « Malheureux !» Et le duc regarda encore le portrait de Bussy. « Je ne puis, dit-il, vous êtes un loyal gentilhomme, Montsoreau, vous comprendrez que je ne puis approuver ce que vous avez fait. »« Pourquoi cela, monseigneur ? Parce que c'est une action indigne de vous et de moi, renoncez à cette femme. Eh, mon cher comte, encore ce sacrifice, mon cher comte, je vous dédommagerai par tout ce que vous me demanderez. » « Votre Altesse aime encore Diane de Méridor, fit Montsoreau, pâle de jalousie. « Non, non, je le jure, non !» C'est bien alors, qui peut arrêter votre Altesse? Elle est ma femme, ne suis-je pas bon gentilhomme? Quelqu'un peut-il s'immiscer dans les secrets de ma vie? Mais elle ne vous aime pas. Qu'importe. Faites cela pour moi, Montsoreau. Je ne le puis. Alors, dit le duc plongé dans la plus horrible perplexité, alors réfléchissez, sire. Le duc essuya son front couvert de la sueur que ce titre prononcé par le comte venait d'y faire monter. « Vous me dénonceriez ?»« Au roi détrôné pour vous, oui, votre majesté, car si mon nouveau prince me blessait dans mon honneur, dans mon bonheur, je retournerais à l'ancien. »« C'est infâme !»« C'est vrai, sire, mais j'aime assez pour être infâme. C'est lâche. Oui, votre majesté, mais j'aime assez pour être lâche. Le duc fit un mouvement vers Montsoreau, mais celui-ci l'arrêta d'un seul regard, d'un seul sourire. Vous ne gagneriez rien à me tuer, monseigneur, dit-il. Il est des secrets qui surnagent avec les cadavres. Restons, vous, un roi plein de clémence, et moi, le plus humble de vos sujets. Le roi se brisait les doigts, les uns contre les autres, il les déchirait avec les ongles. Allons, allons, mon monseigneur, faites quelque chose pour l'homme qui vous a le mieux servi en toutes choses. François se leva. Que me demandez-vous, dit-il, que votre majesté. Malheureux, malheureux, tu veux donc que je te supplie? Oh, monseigneur, et Montsoreau s'inclina. Dites, murmura François. Monseigneur, que vous me pardonnerez? Oui. Monseigneur, vous me réconcilierez avec monsieur de Méridor? Oui. Monseigneur, vous signeriez mon contrat de mariage avec mademoiselle de Méridor? Oui, fit le duc d'une voix étouffée. Et vous honorerez ma femme d'un sourire le jour où elle paraîtra en cérémonie au cercle de la reine, à qui je veux avoir l'honneur de la présenter. Oui, dit François, est-ce tout? Absolument tout, monseigneur. Alors vous avez ma parole. Et vous, dit Montsoreau, en s'approchant de l'oreille du duc, vous conserverez le trône où je vous ai fait monter. Adieu, sire. Cette fois, il le dit si bas que l'harmonie de ce mot parut suave au prince. Il ne me reste plus, pensa Montsoreau, qu'à savoir comment le duc a été instruit. Le jour même, monsieur de Montsoreau avait, selon son désir manifesté au duc d'Anjou, présenté sa femme au cercle de la reine-mère et à celui de la reine. Henri, soucieux comme à son ordinaire, avait été se coucher, prévenu par monsieur de Morvilliers que le lendemain il faudrait tenir un grand conseil. Henri ne fit pas même de questions au chancelier. Il était tard, sa majesté avait envie de dormir. On prit l'heure la plus commode pour ne déranger ni le repos ni le sommeil du roi. Ce digne magistrat connaissait parfaitement son maître et savait qu'au contraire de Philippe de Macédoine, le roi endormi ou à jeun n'écouterait pas avec une lucidité suffisante les communications qu'il avait à lui faire. Il savait aussi que Henri, dont les insomnies étaient fréquentes, c'est l'apanage de l'homme qui doit veiller sur le sommeil d'autrui de ne pas dormir lui-même, songerait au milieu de la nuit à l'audience demandée et la donnerait avec une curiosité aiguillonnée selon la gravité de la circonstance. Tout se passa comme monsieur de Morvilliers l'avait prévu. Après un premier sommeil de 3 ou 4 heures, Henri se réveilla. La demande du chancelier lui revint en tête, il s'assit sur son lit, se mit à penser, et las de penser tout seul, il se laissa glisser le long de ses matelas, passa ses caleçons de soie, chaussa ses pantoufles, et sans rien changer à sa toilette de nuit qui le rendait pareil à un fantôme, il s'achemina à la lueur de sa lampe qui, depuis que le souffle de l'Éternel était passé dans l'Anjou avec Saint-Luc, ne s'éteignait plus. Il s'achemina, disons-nous, vers la chambre de Chicot, la même où s'étaient si heureusement célébrées les noces de mademoiselle de Brissac. Le Gascon dormait à plein sommeil et ronflait comme une forge. Henri le tira 3 fois par le bras sans parvenir à le réveiller. À la 3e fois, cependant, le roi, ayant accompagné le geste de la voix et accompagné Chicot à tue-tête, le Gascon ouvrit un œil. Chicot, répéta le roi. Qu'y a-t-il encore? Demanda Chicot. Eh, mon ami, dit Henri, comment peux-tu dormir ainsi que moi, ton roi, je veille? Ah, mon Dieu, s'écria Chicot, feignant de ne pas reconnaître le roi, est-ce que Sa Majesté a pris une indigestion? Chicot, mon ami, dit Henri, c'est moi. Qui, toi? Moi, Henri. Ah, oh, décidément, mon fils, ce sont les bécassines qui t'étouffent. Je t'avais cependant prévenu, tu en as trop mangé hier soir, comme aussi de ces bisques aux écrevisses. Non, dit Henri, car à peine j'y ai goûté. Alors, dit Chicot, c'est qu'on t'a empoisonné. Ventre de biche que tu es pâle, Henri. Oh, c'est mon masque de toile, mon ami, dit le roi. Tu n'es donc pas malade? Non. Mais alors, pourquoi me réveilles-tu? Parce que le chagrin me persécute. Tu as du chagrin? Beaucoup. Ah, tant mieux. Comment, tant mieux? Oui, le chagrin fait réfléchir, et tu réfléchiras qu'on ne réveille pas un honnête homme à 2 heures du matin que pour lui faire un cadeau. Que m'apportes-tu, voyons? Rien, Chico, je viens causer avec toi. Ce n'est point assez. Chico, monsieur de Morvilliers est venu hier soir à la cour. Tu reçois bien mauvaise compagnie, Henri. Et que venait-il faire? Il venait me demander audience. Ah, voilà un homme qui sait vivre. Ce n'est pas comme toi qui entre dans la chambre des gens à 2 heures du matin sans crier gare. Que pouvait-il avoir à me dire, Chico? Comment, malheureux, s'écria le Gascon, c'est pour me demander cela que tu me réveilles? Chico, mon ami, tu sais que monsieur de Morvilliers s'occupe de ma police. Non, ma foi, dit Chico, je ne le savais pas. Chico, dit le roi, je trouve au contraire, moi, que monsieur de Morvilliers est toujours très bien renseigné. Et quand je pense, dit le Gascon, que je pourrais dormir au lieu d'entendre de pareilles sornettes. Tu doutes de la surveillance du chancelier? Demanda Henri. Oui, Corbeuf, j'en doute, dit Chico, et j'ai mes raisons. Lesquelles? Oh, si je t'en donne une seule, cela te suffira-t-il? Oui, si elle est bonne. Et tu me laisseras tranquille après. Certainement. Eh bien, un jour, non, ah, c'était un soir. Eh, peu importe. Au contraire, cela importe beaucoup. Eh bien, un soir que je t'ai battu dans la rue Froidmantel, tu avais avec toi Caylus et Schomberg. Tu m'as battu? Oui, bâtonné, bâtonné, tous trois. À quel propos? Vous aviez insulté mon page, vous avez reçu les coups, et monsieur de Morvilliers ne vous en a rien dit. Comment? S'écria Henri. C'était toi, scélérat, c'était toi, sacrilège. Moi-même, dit Chico en se frottant les mains, n'est-ce pas, mon fils, que je frappe bien quand je frappe? Misérable. Et tu avoues donc que c'est la vérité. Je te ferai fouetter, Chico. Ah, il ne s'agit pas de cela. Est-ce vrai, oui ou non? Voilà tout ce que je te demande. Mais tu sais bien que c'est vrai, malheureux. As-tu fait venir le lendemain monsieur de Morvilliers? Mais oui, puisque tu étais là quand il est venu. Lui as-tu raconté le fâcheux accident qui était arrivé la veille à un gentilhomme de tes amis? Oui. Lui as-tu ordonné de retrouver le coupable? Oui. Te l'a-t-il retrouvé? Non. Eh bien, va donc te coucher, Henri, tu vois que ta police est mal faite. Et se retournant vers le mur, sans pouvoir répondre davantage, Chico se remit à ronfler avec un bruit de grosse artillerie qui ôta au roi toute espérance de le tirer de ce second sommeil. Henri rentra en soupirant dans sa chambre et, à défaut d'autres interlocuteurs, se mit à déplorer avec son lévrier Narcisse le malheur qu'ont les rois de ne jamais connaître la vérité qu'à leurs dépens. Le lendemain, le conseil s'assembla. Il variait avec les changeantes amitiés du roi. Cette fois, il se composait de Caylus, de Maugiron, de D'Épernon et de Schomberg, en faveur tous quatre depuis plus de 6 mois. Chico, assis au haut bout de la table, taillait des bateaux en papier et les alignait méthodiquement pour faire, disait-il, une flotte à Sa Majesté très chrétienne, à l'instar de la flotte du roi très catholique. On annonça monsieur de Morvilliers. L'homme d'État avait pris son plus sombre costume et son air le plus lugubre. Après son salut profond qui lui fut rendu par Chico, il s'approcha du roi. Je suis, dit-il, devant le conseil de votre majesté. Oui, devant mes meilleurs amis. Parlez. Eh bien, sire, je prends assurance et j'en ai besoin. Il s'agit de dénoncer un complot bien terrible à votre majesté. Un complot? S'écrièrent tous les assistants. Et Chico dressa l'oreille et suspendit la fabrication d'une superbe galiote à deux têtes dont il voulait faire la barque amirale de la flotte. Un complot, oui, majesté, dit monsieur de Morvilliers, baissant la voix avec ce mystère qui présage les terribles confidences. Oh, fit le roi, voyons, est-ce un complot espagnol? À ce moment, monsieur le duc d'Anjou, mandé au conseil, entra dans la salle dont les portes se refermèrent aussitôt. Vous entendez, mon frère, dit Henri après le cérémonial, monsieur de Morvilliers nous dénonce un complot contre la sûreté de l'État. Le duc jeta lentement sur les gentilshommes présents ce regard si clair et si défiant que nous lui connaissons. Est-il bien possible, murmura-t-il. Hélas, oui, monseigneur, dit monsieur de Morvilliers, un complot, menaçant. Contez-nous cela, répliqua Chico, en mettant sa galiote terminée dans le bassin de cristal placé sur la table. Oui, balbutia le duc d'Anjou, contez-nous cela, monsieur le chancelier. J'écoute, dit Henri. Le chancelier prit sa voix la plus voilée, sa pose la plus courbée, et son regard le plus affairé. Sire, dit-il, depuis très longtemps, je veillais sur les menées de quelques mécontents. Oh, fit Chico, quelques, vous êtes bien modeste, monsieur de Morvilliers. C'était, continua le chancelier, des hommes sans aveu, des boutiquiers, des gens de métier, ou de petits clercs de robe. Il y avait de ci, de là, des moines et des écoliers. Ce ne sont pas là de bien grands princes, dit Chico, avec une parfaite tranquillité, en recommençant un nouveau vaisseau à deux pointes. Le duc d'Anjou sourit forcément. « Vous allez voir, sire, dit le chancelier, je savais que les mécontents profitent toujours de deux occasions principales, la guerre ou la religion. »« C'est fort sensé, dit Henri. Après, le chancelier, heureux de cet éloge, poursuivit. « Dans l'armée, j'avais des officiers dévoués à votre majesté qui m'informaient de tout. Dans la religion, c'est plus difficile, alors j'ai mis des hommes en campagne. »« Toujours fort sensé, dit Chico. » Et enfin, continua Morvilliers, je réussis à faire décider par mes agents un homme de la prévôté de Paris. À quoi faire, dit le roi? À espionner les prédicateurs qui vont excitant le peuple contre votre majesté. Oh, oh, pensa Chico, mon ami serait-il connu? Ces gens reçoivent des inspirations, non pas de Dieu, sire, mais d'un parti fort hostile à la couronne. Ce parti, je l'ai étudié. Ah, fort bien, dit le roi. « Très sensé, dit Chico, et j'en connais les espérances, ajouta triomphalement Morvilliers. « C'est superbe, s'écria Chico. Le roi fit signe au Gascon de se taire. Le duc d'Anjou ne perdit pas de vue l'orateur. « Pendant plus de 2 mois, dit le chancelier, j'entretins au gage de votre majesté des hommes de beaucoup d'adresse, d'un courage à toute épreuve, d'une avidité insatiable, c'est vrai, mais que j'avais besoin de faire tourner au profit du roi, car tout en les payant magnifiquement, j'y gagnais encore. J'appris d'eux que, moyennant le sacrifice d'une forte somme d'argent, je connaîtrais le premier rendez-vous des conspirateurs. « Ah, voilà qui est bien, dit Chico, paix, mon roi, paix !» Eh, qu'à cela ne tienne, s'écria Henri, voyons, chancelier, le but de ce complot, l'espérance des conspirateurs. Sire, il ne s'agit rien moins que d'une seconde de Saint-Barthélemy. Contre qui? Contre les Huguenots. Les assistants se regardèrent surpris. Combien cela vous a-t-il coûté à peu près? Demanda Chico. 75 000 livres d'une part, 100 000 de l'autre. Chico se retourna vers le roi. « Si tu veux, pour 1 000 écus, je te dis le secret de monsieur de Morvilliers, » s'écria le Gascon. Celui-ci fit un geste de surprise. Le duc d'Anjou fit meilleur visage qu'on eût pu s'y attendre. « Dis, » répliqua le roi, « c'est la ligue pure et simple, fit Chico, et la ligue commencée depuis 2 ans. Monsieur de Morvilliers a découvert ce que tout bourgeois parisien sait comme son pater. » Monsieur, interrompit le chancelier. Ah, je dis la vérité, et je le prouverai, s'écria Chico avec un ton d'avocat. Ah, dites-moi le lieu de la réunion des leaders, alors. Très volontiers. Premièrement, la place publique. Deuxièmement, la place publique. Troisièmement, les places publiques. Monsieur Chico veut rire, dit en grimaçant le chancelier. Et leur signe de ralliement? Ils sont habillés en parisiens et remuent les jambes lorsqu'ils marchent, répondit gravement Chico. Un éclat de rire général accueillit cette explication. Monsieur de Morvilliers crut qu'il serait de bon goût de céder à l'entraînement et il rit avec les autres. Mais redevenant sombre, enfin dit-il, mon espion a assisté à l'une de leurs séances et cela dans un lieu que monsieur Chico ne connaît pas. Le duc d'Anjou pâlit. « Où cela ?» dit le roi. « À l'abbaye Sainte-Geneviève. » Chico laissa tomber une boule de papier qu'il embarquait dans la barque amirale. « L'abbaye Sainte-Geneviève ? » dit le roi. « C'est impossible, » murmura le duc. « Cela est, » dit Morvilliers, satisfait de l'effet produit et regardant avec triomphe toute l'assemblée. Et qu'ont-ils fait, monsieur le chancelier, qu'ont-ils décidé? Demanda le roi. Que les ligueurs se nommeraient des chefs, que chaque enrôlé s'armerait, que chaque province recevrait un envoyé de la métropole insurrectionnelle, que tous les huguenots chéris de Sa Majesté, ce sont leurs expressions, le roi sourit, seraient massacrés à jour désigné. Voilà tout, demanda Henri. Peste, dit Chicot, on voit que tu es catholique. Eh bien, est-ce tout? Dit le duc. Non, monseigneur. Peste, je crois bien que ce n'est pas tout. Si nous n'avions que cela pour 175 000 livres, le roi serait volé. Parlez, chancelier, dit le roi. Il y a des chefs. Et Chicot vit s'agiter sur le cœur du duc son pourpoint que soulevaient les battements. Tiens, 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 dit-il, un complot qui a des chefs, c'est étonnant. Cependant, il nous faut encore quelque chose pour nos 175 000 livres. Ces chefs, leur nom, demanda le roi. Comment s'appellent ces chefs? D'abord un prédicateur, un fanatique, un énergumène dont j'ai acheté le nom 10 000 livres. Et vous avez bien fait. Le frère Génophévin Goronflot. Pauvre diable, fit Chicot, avec une commisération véritable. Il était dit que cette aventure ne lui réussirait pas. Goronflot, dit le roi en écrivant ce nom. Bien, après. Après, dit le chancelier avec hésitation, mais sire, c'est tout. Et Morvilliers, promenant encore sur l'assemblée son regard inquisiteur et mystérieux, qui semblait dire, si votre majesté était seule, elle en saurait bien davantage. Dites, chancelier, je n'ai que des amis ici, dites. Ô sire, celui que j'hésite à nommer a aussi des amis bien puissants près de moi, partout. Sont-ils plus puissants que moi? S'écria le roi, pâle de colère et d'inquiétude. Sire, un secret ne se dit pas à haute voix. Excusez-moi, je suis homme d'État. C'est juste. Ce fort sensé, dit Chicot, mais nous sommes tous hommes d'État. Monsieur, dit le duc d'Anjou, nous allons présenter au roi notre humble respect si la communication ne peut être faite en notre présence. Monsieur de Morvilliers hésitait. Chicot guettait jusqu'au moindre geste, craignant que le chancelier, tout naïf qu'il semblait être, n'eût réussi à découvrir quelque chose de moins simple que ses premières révélations. Le roi fit signe au chancelier de s'approcher, au duc d'Anjou de demeurer en place, à Chicot de faire silence, aux trois favoris de détourner leur attention. Aussitôt, monsieur de Morvilliers se pencha vers l'oreille de Sa Majesté, mais il n'avait pas fait la moitié du mouvement compassé selon toutes les règles de l'étiquette qu'une immense clameur retentit dans la cour du Louvre. Le roi se redressa subitement, messieurs de Quélus et d'Épernon se précipitèrent vers la fenêtre, monsieur d'Anjou porta la main à son épée comme si tout ce bruit menaçant eût été dirigé contre lui. Chicot, se haussant sur les pieds, voyait dans la cour et dans la chambre. Ah, tiens, monsieur de Guise, s'écria-t-il le premier, monsieur de Guise qui entre au Louvre. Ah, c'est vrai, dirent les gentilshommes. Le duc de Guise, balbutia monsieur d'Anjou. Voilà qui est bizarre. N'est-ce pas que monsieur de Guise soit à Paris? Dit lentement le roi, qui venait de lire, dans le regard presque hébété de monsieur de Morvilliers, le nom que ce dernier voulait lui dire à l'oreille. Est-ce que la communication que vous vouliez me faire avait trait à mon cousin de Guise? Demanda-t-il à voix basse au magistrat. Oui, sire, c'est lui qui présidait la séance, répondit le chancelier sur le même ton. Et les autres, je n'en connais pas d'autres. Henri consulta Chicot d'un coup d'œil. Ventre de biche, s'écria le Gascon en se posant royalement. Faites entrer mon cousin de Guise. Et se penchant vers Henri, en voilà un, lui dit-il à l'oreille, dont tu connais assez le nom à ce que je crois pour n'avoir pas besoin de l'inscrire sur tes tablettes. Les huissiers ouvrirent la porte avec fracas. Un seul battant, messieurs, dit Henri, un seul. Les deux sont pour le roi. Le duc de Guise était assez avant dans la galerie pour entendre ces paroles, mais cela ne changea rien au sourire avec lequel il avait résolu d'aborder le roi. Derrière M. de Guise venaient en grand nombre des officiers, des courtisans, des gentilshommes. Derrière cette brillante escorte venait le peuple, escorte moins brillante, mais plus sûre et surtout plus redoutable. Seulement les gentilshommes étaient entrés au palais et le peuple était resté à la porte. C'était des rangs de ce peuple que les cris partaient encore au moment même où le duc de Guise, qu'il avait perdu de vue, pénétrait dans la galerie. À la vue de cette espèce d'armée qui faisait cortège au héros parisien chaque fois qu'il apparaissait dans les rues, les gardes avaient pris les armes et, rangés derrière leur brave colonel, lançaient au peuple des regards menaçants, aux triomphateurs des provocations muettes. Guise avait remarqué l'attitude de ces soldats que commandait Crillon. Il adressa un petit salut plein de grâce au colonel qui, l'épée au poing, se tenait à quatre pas en avant de ses hommes et qui demeura raide et impassible dans sa dédaigneuse immobilité. Cette révolte d'un homme et d'un régiment contre son pouvoir si généralement établi frappa le duc. Son front devint un instant soucieux, mais à mesure qu'il s'approchait du roi, son front s'éclaircit, si bien que, comme nous l'avons vu arriver au cabinet d'Henri III, il y entra en souriant. « Ah, c'est vous, mon cousin, dit le roi, comme vous menez grand bruit. Est-ce que les trompettes ne sonnent pas? Il m'avait semblé les entendre. » Sire, répondit le duc, les trompettes ne sonnent à Paris que pour le roi, en campagne que pour le général, et je suis trop familier à la fois avec la cour et avec les camps pour m'y tromper. Ici, les trompettes feraient trop de bruit pour un sujet, là-bas, elles n'en feraient point assez pour un prince. Henri se mordit les lèvres. Par la mordieu, dit-il, après un silence employé à dévorer des yeux le prince lorrain. « Vous êtes donc bien reluisant, mon cousin. Est-ce que vous arrivez du siège de la Charité, d'aujourd'hui seulement ?»« D'aujourd'hui seulement, oui, sire, » répondit le duc avec une légère rougeur. « Ma foi, c'est beaucoup d'honneur pour nous, mon cousin, que votre visite. Beaucoup d'honneur, beaucoup d'honneur. » Henri III répétait les mots quand il avait trop d'idées à cacher. Comme on épaissit les rangs des soldats devant une batterie de canons qui ne doit être démasquée qu'à un certain moment. « Beaucoup d'honneur, » répéta Chicot, avec une intonation si exacte qu'on eût pu croire que ces deux mots venaient encore du roi. « Sire, dit le duc, votre majesté veut railler sans doute. Comment ma visite pourrait-elle honorer celui de qui vient tout l'honneur ?»« Je veux dire, monsieur de Guise, répliqua Henri, que tout bon catholique a l'habitude, au retour de la campagne, d'aller voir Dieu d'abord dans quelqu'un de ses temples. Le roi ne vient qu'après Dieu. Honorer Dieu, servir le roi, vous savez, mon cousin, c'est un axiome moitié religieux, moitié politique. » La rougeur du duc de Guise fut cette fois plus distincte. Le roi, qui avait parlé en regardant le duc bien en face, vit cette rougeur, et son regard, comme guidé par un mouvement instinctif, était passé du duc de Guise au duc d'Anjou. Il vit avec étonnement que son bon frère était aussi pâle que son bon cousin était rouge. Cette émotion, se traduisant de deux façons si opposées, le frappa. Il détourna les yeux avec affectation et prit un air affable, velours sous lequel personne mieux que Henri III ne savait cacher ses griffes royales. « En tout cas, duc, dit-il, rien n'égale ma joie de vous voir échapper à toutes ces mauvaises chances de la guerre. Quoique vous cherchiez le danger, dit-on, d'une façon téméraire, mais le danger vous connaît, mon cousin, et il vous fuit. » Le duc s'inclina devant le compliment. « Aussi, je vous dirais, mon cousin, ne soyez pas si ambitieux de péril mortel, car ce serait en vérité bien dur pour des fainéants comme nous qui dormons, qui mangeons, qui chassons, et qui, pour toute conquête, inventons de nouvelles modes et de nouvelles prières. » « Oui, sire, dit le duc, se rattachant à ce dernier mot, nous savons que vous êtes un prince éclairé et pieux, et qu'aucun plaisir ne peut vous faire perdre de vue la gloire de Dieu et les intérêts de l'Église. C'est pourquoi nous sommes venus avec tant de confiance vers votre majesté. Hein, « Regarde donc la confiance de ton cousin Henri, dit Chicot, en montrant au roi les gentilshommes et qui, par respect, se tenaient hors de l'appartement. » Il en a laissé un tiers à la porte de ton cabinet et les deux autres tiers à celle du Louvre. Avec confiance, répéta Henri, ne venez-vous pas toujours avec confiance près de moi, mon cousin ?
Sire, je m'entends, cette confiance dont je parle a rapport à la proposition que je compte vous faire.
Ah, vous avez à me proposer quelque chose, mon cousin, alors parlez avec confiance, comme vous dites avec toute confiance. Qu'avez-vous à nous proposer ?
L'exécution d'une des plus belles idées qui ait encore ému le monde chrétien depuis que les croisades sont devenues impossibles.
Parlez, duc.
Sire, continua le duc, mais cette fois en haussant la voix de manière à être entendu de l'antichambre,
sire, ce n'est pas un vain titre que celui de roi très chrétien. Il oblige à un zèle ardent pour la défense de la religion. Le fils aîné de l'Église, et c'est votre titre, sire, doit être toujours prêt à défendre sa mère.
Tiens, dit Chicot, mon cousin qui prêche avec une grande rapière au côté et une salade en tête, hein, c'est drôle. Ça ne m'étonne plus que les moines veuillent faire la guerre. Henri, je te demande un régiment pour Gorenflot.
Le duc feignit de ne pas entendre. Henri croisa ses jambes l'une contre l'autre, posa son coude sur son genou et emboîta son menton dans sa main.
« Est-ce que l'Église est menacée par les Sarrasins, mon cher duc » demanda-t-il, « ou bien aspireriez-vous par hasard au titre de roi de Jérusalem ?»«
Sire, reprit le duc, cette grande affluence de peuple qui me suivait en bénissant mon nom, ne m'honorait de cet accueil, croyez-le bien, que pour payer l'ardeur de mon zèle à défendre ma foi. J'ai déjà eu l'honneur de parler à votre majesté avant son avènement au trône d'un projet d'alliance entre tous les vrais catholiques.
Oui, oui, dit Chicot, oui, je m'en souviens, moi. La Ligue, ventre de biche, Henri, la Ligue, par saint Barthélemy, la Ligue, mon roi, hein, sur ma parole, tu es bien oublieux, mon fils, de ne point te souvenir d'une si triomphante idée.
Le duc se retourna au bruit de ces paroles, il laissa tomber un regard dédaigneux sur celui qui les avait prononcées, ne sachant pas combien ces paroles avaient de poids sur l'esprit du roi, surchargé qu'elles étaient des révélations toutes récentes de monsieur de Morvilliers. Le duc d'Anjou en fut ému, lui, et appuyant un doigt sur ses lèvres, il regarda fixement le duc de Guise, pâle et immobile, comme la statue de la circonspection. Et cette fois, le roi ne s'apercevait point du signe d'intelligence qui reliait entre eux les intérêts des deux princes. Mais Chicot, s'approchant de son oreille sous prétexte de planter une de ses deux poules dans les chaînettes en rubis de sa toque, lui dit tout bas « Vois ton frère, Henri ». L'œil d'Henri se leva rapide. Le duc du roi s'abaissa presque aussi prompt, mais il était trop tard. Henri avait vu le mouvement et deviné la recommandation.
Sire, continua le duc de Guise, qui avait bien vu l'action de Chicot, mais qui n'avait pu entendre ses paroles, les catholiques ont en effet appelé cette association la Sainte Ligue, et elle a pour but principal de fortifier le trône contre les Huguenots, ses ennemis mortels.
Bien dit, s'écria Chicot, j'approuve pedibus et nutu.
Mais, continua le duc, c'est peu de s'associer, sire, c'est peu de former une masse, si compacte qu'elle soit. Il faut lui imprimer une direction. Or, dans un royaume comme la France, plusieurs millions d'hommes ne se rassemblent pas sans l'aveu du roi.
Plusieurs millions d'hommes, fit Henri, n'essayant aucun effort pour dissimuler une surprise qu'on eût pu, avec raison, interpréter comme de la frayeur.
Plusieurs millions d'hommes, répéta Chicot, légers noyaux de mécontents et qui, s'il est planté, comme je n'en doute point, par des mains habiles, fera pousser de jolis fruits.
Pour cette fois, la patience du duc parut être à bout. Il serra ses lèvres dédaigneuses et, pressant la terre d'un pied dont il n'osait point la frapper,
« Je m'étonne, sire, dit-il, que votre majesté souffre qu'on m'interrompe si souvent quand j'ai l'honneur de lui parler de matière si grave. »
Et Chicot, à cette démonstration dont il parut sentir toute la justesse, tourna autour de lui des yeux furibonds et, imitant la voix glapissante de l'huissier du Parlement,
« Silence donc » s'écria-t-il, « Ouh, ventre Saint-Biche, on aura affaire à moi !»
Plusieurs millions d'hommes, reprit le roi, qui avait peine à avaler le chiffre. C'est flatteur pour la religion catholique, mais en face de ces plusieurs millions d'associés, combien y a-t-il de protestants dans mon royaume ? Le duc parut chercher. « 4, dit Chicot. » Cette nouvelle saillie fit éclater de rire les amis du roi, tandis que Guise fronçait le sourcil et que les gentilshommes de l'antichambre murmuraient hautement contre l'audace du Gascon. Le roi se tourna lentement vers la porte d'où venaient ces murmures, et, comme lorsqu'il le voulait, Henri avait un regard plein de dignité, les murmures cessèrent. Et puis, ramenant ce même regard sur le duc, sans rien changer à son expression, « Voyons, monsieur, dit-il, que demandez-vous? Au but, au but. Je demande, sire, car la popularité de mon roi m'est plus chère encore peut-être que la mienne, je demande que votre majesté montre clairement qu'elle nous est aussi supérieure dans son zèle pour la religion catholique que pour toutes les autres choses, et qu'elle ôte ainsi tout prétexte aux mécontents de recommencer les guerres. « Oh, s'il ne s'agit que de guerre, mon cousin, dit Henri, j'ai des troupes, et rien que sous vos ordres, vous tenez, je crois, dans le camp que vous venez de quitter pour me donner ces excellents conseils, près de 25 000 hommes. Sire, quand je parle de guerre, j'aurais dû peut-être m'expliquer. « Expliquez-vous, mon cousin, vous êtes un grand capitaine, et j'aurai, vous n'en doutez pas, plaisir à vous entendre discourir sur de pareilles matières. » Sire, je voulais dire que par le temps qui court, les rois sont appelés à soutenir deux guerres, la guerre morale, si je puis m'exprimer ainsi, et la guerre politique, la guerre contre les idées et la guerre contre les hommes. Mordieu, dit Chicot, comme c'est puissamment exposé. Silence, fou, dit le roi. Les hommes, continua le duc, les hommes sont visibles, palpables, mortels. On les joint, on les attaque, on les bat, et quand on les a battus, on leur fait leur procès et on les pend. Ou mieux encore, oui, dit Chicot, on les pend sans leur faire de procès, c'est plus court et plus royal. Mais les idées, continua le duc, on ne les rencontre point ainsi, sire, elles se glissent, invisibles et pénétrantes. Elles se cachent surtout aux yeux de ceux-là qui veulent les détruire. Abritées au fond des âmes, elles y projettent de profondes racines, et plus on coupe les rameaux imprudents qui sortent au dehors, plus les racines inférieures deviennent puissantes et inextirpables. Une idée, sire, c'est un nain géant qu'il faut surveiller nuit et jour, car l'idée qui rampait hier à vos pieds, demain dominera votre tête. Une idée, sire, c'est l'étincelle qui tombe sur le chaume. Il faut de bons yeux en plein jour pour deviner les commencements de l'incendie. Et voilà pourquoi, sire, des millions de surveillants sont nécessaires. Hein, voilà les 4 huguenots de France à tous les diables, s'écria Chicot. Ventre de biche, je les plains. Et c'était pour veiller à cette surveillance, continua le duc, que je proposais à votre majesté de nommer un chef à cette sainte union. Vous avez parlé, mon cousin, demanda Henri au duc. Oui, sire, et sans détour, comme a pu le voir votre majesté. Chicot poussa un soupir effrayant, tandis que le duc d'Anjou, remis de sa frayeur première, souriait au prince Lorrain. Eh bien, dit le roi à ceux qui l'entouraient, que pensez-vous de cela, messieurs? Chicot, sans rien répondre, prit son chapeau et ses gants. Puis, empoignant une peau de lion par la queue, il la traîna dans un coin de l'appartement et se coucha dessus. « Que faites-vous, Chicot ? » demanda le roi. « Sire, dit Chicot, la nuit, prétend-on, est bonne conseillère. Pourquoi prétend-on cela ? C'est parce que la nuit, on dort. Je vais dormir, sire, et demain, à tête reposée, je rendrai réponse à mon cousin de Guise. » Et il s'allongea jusqu'aux ongles de l'animal. Le duc lança au Gascon un furieux regard, auquel, en rouvrant un œil, celui-ci répondit par un ronflement pareil au bruit du tonnerre. « Eh bien, sire, demanda le duc, que pense votre majesté ? Oh, je pense que, comme toujours, vous avez raison, mon cousin. Convoquez donc vos principaux ligueurs, venez à leur tête, et je choisirai l'homme qu'il faut à la religion. » « Et quand cela, sire ? Demanda le duc. « Demain. » Et en prononçant ce dernier mot, il divisa habilement son sourire. Le duc de Guise en eut la première partie, le duc d'Anjou la seconde. Ce dernier allait se retirer avec la cour, mais au premier pas qu'il fit dans cette intention, « Restez, mon frère, dit Henri, j'ai à vous parler. » Le duc de Guise appuya un instant sa main sur son front,
comme pour y comprimer un monde de pensées, et partit avec toute sa suite qui se perdit sous les voûtes. Un instant après, on entendit les cris de la foule qui saluait sa sortie du Louvre comme elle avait salué son entrée. Chico ronflait toujours, mais nous n'oserions pas répondre qu'il dormait.